Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit Seigneur se faire une création nouvelle, vous renouvellerez la face de la terre. Priant Dieu qui avait déjà envoyé votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse et divine consolation pour le même Jésus-Christ notre Seigneur. Si soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, donc nous en sommes au chapitre 26 de Saint Matthieu, versets 39 à 44, toujours dans la passion de notre Seigneur, donc sur le polycopier qui couvre les chapitres 26, 27 et 28 de Saint Matthieu. Nous en sommes à la page 10. Voyons d'abord donc ce verset, donc 39 à 44 du chapitre 26. S'étant avancé un peu loin, Jésus se prosterna le visage contre terre, priant et disant, « Mon Père, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi, cependant qu'il en soit non pas comme je veux, mais comme vous voulez. » Il vint vers ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi ? Veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. » Il s'en alla encore une seconde fois, il pria en disant, « Mon Père, si ce calice ne peut passer sans que je le boive, que votre volonté soit faite. » Il revint de nouveau, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient appesantis, et il les quitta. Les quittant, il s'en alla encore, il pria pour la troisième fois en disant ces mêmes paroles. N'oublions pas que les textes de la Passion ne sont pas simplement des textes historiques de quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans. Il faut personnaliser la passion. N'oubliez pas que c'est l'enseignement de tous les docteurs, et que chaque fois que je commets une faute grave, je renouvelle la passion du Christ dans mon âme. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ ne s'adresse pas seulement aux apôtres, il s'adresse à chacun d'entre nous. Quand il dit à Pierre ainsi, « Vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi ?» Eh bien, il nous pose la même question. « Et vous, n'avez-vous pas pu veiller une heure avec moi ?» Est-ce que nous sommes capables de passer un petit temps tous les jours en méditation pour ne pas oublier notre Seigneur? N'oubliez pas que c'est dans ce passage des évangiles donc qu'il y a cette phrase qu'il faudrait que tous nous inscrivions en lettres d'or dans nos maisons. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation, car l'esprit est prompt mais la chair est faible. Veillez et priez, c'est prière et pénitence, c'est deux grands moyens pour arriver à tenir le coup et conserver la foi catholique. Voyons donc ce que disent les pères, donc à la page 10 sur le polycopier. Les premiers évangélistes ont insisté davantage dans leur récit sur ce qui concernait la nature humaine, et Saint Jean sur ce qui fait ressortir sa nature divine, non pas comme je le veux, mais comme vous le voulez. Pourquoi dit-il cela? Parce que la volonté du Père est que la force nécessaire pour voir ce calice passe de Jésus-Christ dans ses apôtres. Car d'après l'ordre des conseils divins, le démon doit être vaincu directement, plus par les disciples de Jésus-Christ que par Jésus-Christ lui-même. Donc il faut bien se rappeler ces choses-là. Le Seigneur Jésus-Christ explique à ses apôtres la nécessité de prier et de faire pénitence, auquel il faut rajouter bien sûr les sacrements, prière, pénitence, sacrement. Sinon, on se fait rouler par le démon. Et si les apôtres se sont endormis, au lieu de prier, ils ont dormi, leurs yeux étaient appesantis, nous dit l'Écriture, eh bien c'est précisément parce que les apôtres n'ont pas passé de temps en prière, mais au lieu de prier, dormaient, qu'ils ne vont pas passer l'épreuve. Et dans quelques minutes, Judas va venir avec la troupe pour troupes de soldats pour arrêter notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tous vont s'enfuir comme des lapins. Ils vont trahir notre Seigneur. Pas simplement Saint-Pierre, mais aussi tous les autres apôtres. Pourquoi? Parce qu'ils ne priaient pas, ne faisaient pas pénitence. Eh bien, c'est un petit peu notre histoire à nous aussi. Nous aussi, si nous ne prions pas et que nous ne faisons pas pénitence, eh bien, nous aurons exactement les mêmes difficultés. Donc, veillez, priez afin de ne point tomber dans la tentation. Donc, veillez, priez à pénitence. Nous devons veiller ensuite prier. Or, on pratique la vigilance en faisant de bonnes œuvres, en se tenant soigneusement en garde contre toute doctrine des ténèbres. Et c'est par là que celui qui veille a su le succès de sa prière. Donc, la veille représente l'esprit de pénitence. On veille pour faire pénitence, on veille pour se tenir se tenir sur les pieds pour ne pas être tenté justement par le démon. Et c'est quand on arrête de veiller, on s'assoupit. Et du coup, cet assoupissement représente justement le démon qui prend possession de notre âme. Pourquoi? Parce que l'assoupissement entraîne par la force des choses une cécité. Quand on dort, on ne voit plus rien. Et donc cette cécité représente la cédille, c'est-à-dire la paresse spirituelle qui nous coupe de notre Seigneur Jésus-Christ, de la force de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc malheur à celui qui arrête de veiller, qui arrête de faire pénitence. Sans pénitence, on ne peut pas s'en tirer. Si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous, nous dit notre Seigneur. C'est pour ça qu'il faut vraiment personnaliser cette passion. Ce n'est pas simplement se rappeler ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait, mais c'est comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ meurt pas simplement pour le voisin, il meurt aussi pour moi. Et c'est toujours valable aujourd'hui, surtout aujourd'hui peut-être encore plus qu'avant, personne ne peut s'en tirer sans faire pénitence. Et le monde moderne pousse les gens à oublier cette nécessité de la pénitence. Quelle est la règle du monde moderne? Jamais souffrir, jamais mourir. Et puis quand on commence à un peu trop souffrir, ou ne plus pouvoir supprimer la souffrance, bon, on supprime le bonhomme, comme ça il n'y a plus de souffrance. Ça c'est le monde moderne. Mais qu'est-ce que nous demande notre Seigneur Jésus-Christ? Au contraire, de veiller, c'est-à-dire faire pénitence. Rappelez-vous les trois, j'en ai parlé il y a deux cours, je crois, les trois points essentiels de pénitence. L'aumône, le jeûne, la prière. L'aumône contre la concupiscence des yeux, le jeûne contre la concupiscence de la chair et la prière contre l'orgueil. Malheur à celui qui ne prie pas, qui ne fait pas pénitence, il va tomber dans l'orgueil. Tombant dans l'orgueil, il va se faire avoir par le démon et du coup, ben, il se fait promener par lui et il n'arrive plus à faire ce que le bon Dieu veut qu'il fasse. Le Seigneur nous dit, les pères prient à trois reprises différentes pour nous apprendre à demander à Dieu le pardon de nos péchés passés, la délivrance des maux présents et la protection divine contre les dangers à venir. Donc trois prières de notre Seigneur Jésus-Christ, une fois pour le passé, une fois pour le présent, une fois pour le futur. Il nous enseigne encore à adresser toutes nos prières au Père, au Fils et au Saint-Esprit, à leur demander de conserver sans tâche notre esprit, notre âme et notre corps. Vous voyez, on voit les pères qui là interprètent le mot « trois », qui représente la totalité, le chiffre de la totalité, le chiffre de la perfection. Eh bien, cela représente pas simplement le passé, le présent et l'avenir, mais aussi les trois personnes de la Sainte Trinité, et puis l'esprit, l'âme et le corps. On peut encore, disent les pères, raisonnablement admettre que le Seigneur a prié par trois fois en vue de la triple tentation de sa passion. Car de même qu'il a eu trois tentations, il y a trois tentations de concupiscence, la crainte nous tente aussi de trois manières différentes. Ça c'est très intéressant, voilà comment expliquent les pères. Concupiscence des yeux, désir de l'honneur et de la louange, concupiscence du plaisir. Donc voyons un petit peu les choses. Ainsi la concupiscence des yeux ou de la curiosité correspond à la crainte de la mort. Car de même que la première est un désir ardent de connaître toute chose, de même la seconde est la crainte de perdre cette connaissance. N'oubliez pas que la curiosité imprudente correspond à l'amour des nouveautés. Et l'amour des nouveautés coupe l'âme de Dieu. L'amour des nouveautés jette dans le monde. Le monde nous attire, par justement ce désir des nouveautés. Rappelez-vous, je vous l'ai déjà dit souvent, mais c'est Saint Pédis qui parle en disant qu'il rappelle constamment dans ses textes, surtout dans le texte de Pachendi, la grande encyclique de 1907 contre le modernisme, les racines du modernisme, et c'est toujours les mêmes, l'orgueil d'abord, l'orgueil, la curiosité et l'ignorance. Donc il faut se protéger justement par ces deux choses, la prière et la pénitence. N'oublions pas aussi que la meilleure façon de vaincre ces trois racines du modernisme, à savoir l'ignorance, la curiosité, l'orgueil, c'est de pratiquer ce qu'on appelle les conseils évangéliques, la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. L'obéissance contre l'orgueil. La pauvreté contre la concupiscence des yeux et la chasteté contre la concupiscence de la chair. Donc nous disent les pères, à la concupiscence et au désir de l'honneur et de la louange correspond la crainte de l'ignominie et des outrages, et à la concupiscence du plaisir, la crainte de la douleur. Donc notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne par sa passion justement la nécessité pour nous de nous abandonner à la volonté divine. Mon Dieu, que votre volonté soit faite. Ce que dit notre Seigneur, mon Père, que votre volonté soit faite. Si ce calice ne peut passer sans que je le boive, que votre volonté soit faite. Donc Saint Rémy dit que s'il a prié trois fois pour les apôtres, c'est surtout pour Saint Pierre qu'il prie, qu'il devait le renier trois fois. Et certes, notre Seigneur Jésus-Christ a beaucoup souffert de l'abandon de tous les apôtres, mais il a surtout souffert de l'abandon de Saint Pierre. Pourquoi ? Parce que Saint Pierre allait devenir son premier pape, son premier vicaire. Alors participons, vous voyez, on voit bien chez les pères de l'Église cette nécessité pour nous de participer à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Si notre Seigneur Jésus-Christ a voulu souffrir dans toutes les parties de son corps, c'est parce que nous offensons Dieu dans toutes les parties de notre corps. Donc j'offense le bon Dieu avec mon intelligence, donc notre Seigneur Jésus-Christ a eu sa tête couronnée d'épines. J'offense le bon Dieu en aimant n'importe qui, n'importe comment, et quand il faut pas. Alors notre Seigneur Jésus-Christ a eu son cœur percé par la lance. Nous utilisons souvent nos mains pour faire des choses qu'il ne faut pas faire. Notre Seigneur Jésus-Christ a eu les mains crucifiées. Nous utilisons nos pieds pour aller dans des lieux dans lesquels un catholique n'a rien à faire. Alors notre Seigneur Jésus-Christ a eu ses pieds crucifiés. Donc voilà un petit peu quelques textes des pères là sur ce sujet. J'offre mon dos à celui qui me flagelle, ma tête à la couronne d'épines, mes mains et mes pieds aux clous, et mon corps tout entier à la croix. Blessé, crucifiez-moi, que l'homme soit épargné et soit reçu de nouveau dans la faveur de Dieu le Père. Le Christ a pris nos infirmités et les a clouées à la croix. Ce calice ne peut donc plus passer sans qu'il le boive, car nous ne pouvons souffrir sans passer par sa passion. Si notre Seigneur Jésus-Christ, innocent qu'il était, a souffert la passion, soyons pas étonnés, si nous, coupables que nous sommes, le bon Dieu nous demande de passer aussi par la même passion. Tous les grands amis de notre Seigneur Jésus-Christ ont été ceux qui ont porté la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut se sauver sans la croix, c'est impossible. Donc on voit justement dans ces textes, on va voir dans les autres textes de la Passion aussi que pour manifester justement cette intensité de la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ, donc il va avoir la sueur de sang et un ange va venir pour le réconforter. Alors on verra ça plus tard parce que ces détails ne sont pas dans l'évangile de Saint Matthieu. Après, Saint Matthieu ne dit pas tout, les évangiles se complètent les uns les autres. Donc, puisque nous avons péché malheureusement avec chacune des parties de notre corps, donc il faut que chaque partie de notre corps participe justement à la réparation, à la satisfaction. Nous aussi, Il faut accepter de présenter notre dos à la passion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut accepter de porter les charges que le bon Dieu nous demande de porter. On a un gros sac à porter. Il faut aussi accepter de couronner notre tête avec la couronne d'épines, pour mortifier notre intelligence et ne pas utiliser notre intelligence pour en faire ce qu'on veut. Il faut crucifier nos mains et nos pieds et notre corps tout entier, justement, pour que nous soyons maîtres de ce que nous faisons, tant pour nous que pour les autres. Notre Seigneur Jésus-Christ nous représente, si vous voulez, c'est pour ça que les pères disent, il a pris sur lui nos infirmités, il les a clouées à la croix. Notre Seigneur Jésus-Christ crucifie en quelque sorte, cloue à la croix de la passion, tous et chacun de nos péchés. Alors le texte ici, au chapitre 26, verset 42, parle de la double nature, la double volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. « Mon Père, si ce calice ne peut passer sans que je le boive, que votre volonté soit faite. » On voit bien la volonté divine et la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de distinction entre la volonté divine en notre Seigneur Jésus-Christ et la volonté divine en Dieu le Père. C'est la même volonté. Voyons en bas de la page 10 ce qu'enseignent les pères sur ce sujet-là. Il y avait dans le Christ deux volontés, volonté divine, volonté humaine, et la volonté humaine était par obéissance soumise à la volonté divine. Donc pour nous montrer l'intensité de sa souffrance, il sua du sang et un ange vint le réconforter. Donc, je ne vais pas en parler tout de suite parce qu'on verra ça dans les autres évangiles. Là, je suis actuellement à l'évangile de Saint Matthieu. L'évangile, encore une fois, l'évangile de Saint Matthieu ne parle pas de l'hématodrosis, bien sûr, de sang, ni de l'ange qui va venir pour réconforter notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a quand même une note ici intéressante. En bas de la page 10, voilà ce qu'ils disent les pères. Les pères font remarquer que l'ange vint pour réconforter notre Seigneur Jésus-Christ, non pas au début des souffrances de l'agonie au Jardin des Oliviers, mais à la fin. L'ange ne vint que lorsque le Christ priait pour la troisième fois, et non dès la première ou la deuxième fois. Ainsi, si Dieu ne nous entend pas après notre première prière, il nous faut prier avec plus de ferveur jusqu'à ce qu'il entende. Qui nous entendent et que nous obtenions ce que nous demandons. La persévérance couronne l'œuvre, surtout dans la prière. Si le Christ ne nous a pas entendus après sa première prière et même sa seconde, ne soyons pas étonnés si nous ne sommes pas entendus immédiatement. Si notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, prie son Père et demande à son Père que le calice de la passion puisse passer loin de lui et que notre Seigneur Jésus-Christ, qui prie dans son humanité, évidemment, qui prie dans son humanité, ne va pas obtenir ce qu'il souhaite. C'est pour ça qu'on voit très bien notre Seigneur Jésus-Christ la parfaite soumission de sa nature, de sa volonté humaine à la volonté divine. C'est dans la persévérance, page 11 sur le polycopier, c'est dans la persévérance que nous gagnerons le fruit de notre prière. Nous renforçons calmement notre souffrance, obtenant la force de l'esprit pour supporter et dépasser nos épreuves. Donc ne nous décourageons pas quand nos prières ne sont pas répondues immédiatement. Le bon Dieu sait ce qu'il fait. Parfois, on ne demande pas quand il faut, on ne demande pas ce qu'il faut, on ne demande pas comme il faut. C'est pour ça qu'avant chaque prière, il faut vraiment, avant de demander à notre Seigneur Jésus-Christ, il faut dire, commencer et finir toutes ces prières en disant « Mon Dieu, que votre volonté soit faite. » Même si je ne la connais pas, même si je ne la comprends pas, même si je ne l'aime pas, que votre volonté soit faite. Oh, la page 13, encore quelques notes intéressantes des pères. Le Christ pria trois fois pour les apôtres, donc on a déjà vu ça, surtout pour Pierre qui allait le renier trois fois. Ce que dit Rabban mort, Notre Seigneur pria trois fois pour que nous demandions pardon pour nos péchés passés, protection pour le présent, attention pour les périls futurs. Pour que nous dirigions nos prières vers le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour que nos corps, âmes et esprits soient préservés sans faute. Car nos tentations de désir et de crainte sont triples comme nos péchés. Donc on retrouve le symbole du chiffre 3, donc les pères ont différents moyens d'expliquer, mais ce chiffre 3 représente la totalité, et qu'on est tenté par toutes les puissances de notre âme. On est tenté dans notre intelligence, dans notre volonté, dans notre irascible et dans notre concupiscible. Et il va y avoir ce combat terrible entre les passions d'une part, qui vont se révolter en voulant suivre notre volonté propre contre, de l'autre côté, la volonté du bon Dieu. Mais encore une fois, le bon Dieu ne nous traite pas comme des esclaves, il nous laisse libres de l'accepter ou de le refuser. Donc il faut prier, nous disent les pères, pas simplement en réparation des péchés passés, mais également pour la force pour le présent, et en même temps pour demander l'acceptation des difficultés qui vont arriver dans le futur. En début de journée, il faut vraiment dire au bon Dieu, mon Dieu, voilà, par avance, j'accepte toutes les croix qui vont arriver aujourd'hui. Je ne les connais pas, peut-être mieux pas que je les connaisse trop à l'avance, sinon je risque de me décourager, mais par avance, j'accepte toutes les croix que vous avez prévues pour moi aujourd'hui. Il faut prier pas simplement le Père, mais aussi le Fils et le Saint-Esprit, c'est prier la Sainte Trinité, pour que notre âme, notre corps, notre esprit soient préservés de toutes ces fautes, et que nous puissions lutter contre les trois concupiscences. Versets 45 et 46 du chapitre 26 de saint Matthieu. Puis il vint à ses disciples et leur dit, « Dormez maintenant, reposez-vous. Voici que l'heure approche et le Fils de l'homme sera livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voilà, voici que celui qui doit me trahir approche. » Donc notre Seigneur a passé ces 3 heures d'agonie. Les apôtres, au lieu de l'aider à prier, de l'aider à supporter sa croix, à ne pas se décourager, humainement parlant, les apôtres sont appesantis, ils étaient endormis, n'ont pas aidé notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, on voit très bien qu'ils vont se retrouver seuls au moment de l'arrestation de notre Seigneur Jésus-Christ, précisément parce qu'ils n'ont pas rempli leurs obligations de prière. Donc nous devons nous aussi veiller, prier, disent les pères, pour ne point tomber dans la tentation, afin de pouvoir ensuite nous livrer au sommeil et au repos. Veillons et prions maintenant pour pouvoir nous reposer plus tard. Ainsi tout homme qui a trouvé une demeure au Seigneur, un tabernacle au Dieu de Jacob, peut monter sur le lit de son repos et accorder le sommeil à ses yeux. Mais ne pas se reposer avant d'avoir rempli notre devoir d'État. Ne pas se reposer avant d'avoir prié et fait pénitence. Veillez, priez. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ revient vers ses disciples, les apôtres font remarquer qu'il les trouve d'abord endormis la première fois. Il leur fait un reproche. La seconde fois, il se tait. Et la troisième fois, il leur ordonne de se reposer. Alors voilà l'explication que donnent les pères, c'est très beau. Voici la raison de cette conduite du Christ. Premièrement, après sa résurrection, il les trouva dispersés, pleins de défiance et de crainte. Donc ça, c'est entre la résurrection et la Pentecôte. Deuxième période, lorsqu'il les visita en leur envoyant l'Esprit Saint, c'est la Pentecôte. Leurs yeux étaient appesantis, ils ne pouvaient contempler la liberté de l'Évangile, car l'amour de la loi qui les retenait encore tant soit peu, les laissait comme plongés dans le sommeil par rapport à la foi. Et le repos ne viendra qu'à la troisième étape, le ciel, lorsqu'il reviendra dans l'éclat de sa majesté, à la fin des temps, au moment de la résurrection générale, il leur rendra alors la sécurité et le repos. Donc nous aussi, on va passer par ces mêmes épreuves, d'abord une épreuve un temps de défiance, un temps de crainte, puis par une certaine forme d'incompréhension avant d'arriver à trouver la paix au ciel. C'est aussi une image, si vous voulez, là, que représente notre Seigneur Jésus, qu'utilise notre Seigneur Jésus-Christ pour nous faire comprendre qu'il y a différentes étapes pour atteindre notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut d'abord passer par la voie purgative, puis par la voie illuminative, puis enfin par la voie unitive, la voie mystique. Et entre ces étapes, il y a toujours une période de purification très forte. Ainsi, entre la période de voie purgative et la période de voie illuminative, il y a ce qu'on appelle la nuit des sens. Donc le bon Dieu va enlever toutes les consolations sensibles. Puis entre la voie illuminative et la voie unitive, il y a la nuit de l'esprit qui est encore pire, encore plus dure. La nuit de l'esprit, non seulement le bon Dieu nous purifie des choses sensibles, mais il va aussi nous purifier des choses intellectuelles. Si vous voulez, des désirs intellectuels, on a l'impression dans la nuit de l'esprit qu'on a perdu la foi. Eh bien, le bon Dieu utilise justement ces intermédiaires, la nuit des sens puis la nuit de l'esprit, pour nous purifier en quelque sorte de votre volonté propre, pour que notre volonté propre disparaisse totalement et que nous puissions à ce moment-là être dans la paix du Christ. Et c'est l'arrivée au ciel, c'est la voie mystique. Certes, certains grands saints ont déjà atteint cette voie unitive, qu'on appelle la voie unitive, la voie mystique, ici-bas, sur la terre, mais nous, pauvres gens que nous sommes, la plupart du temps, nous l'atteindrons, cette voie mystique, cette voie unitive qu'au ciel. Là, nous serons unis à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle le mariage spirituel. Maintenant encore, Jésus est livré entre les mains des pécheurs, lorsque ceux qui paraissent croire en lui l'ont entre les mains, tout pécheur qu'ils sont. De même, toutes les fois qu'un juste qui possède Jésus en soi devient esclave du péché, Jésus est encore livré entre les mains des pécheurs. Vous voyez là, on voit bien comment les pères de l'Église nous demandent de nous approprier la passion. Quand les bourreaux frappent sur notre Seigneur Jésus-Christ, c'est nous qui frappons. Quand les apôtres s'endorment au lieu de veiller avec notre Seigneur Jésus-Christ, c'est nous qui nous endormons. Quand les apôtres se sauvent en courant au début à la fin de l'agonie, au moment de l'arrivée de la troupe avec Judas, c'est nous qui nous sauvons. Alors attention à ça. Il ne faut pas simplement, encore une fois, se rappeler de considérer la passion comme quelque chose de passé. Ça, c'est du protestantisme. La passion, quelque chose d'actuel. C'est pour ça que la messe est une action. La messe n'est pas simplement un rappel, faire mémoire de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous pendant il y a 2000 ans. C'est beaucoup plus que ça. C'est une action. Une fois actionnable dans l'action. Cette phrase est très belle. Toutes les fois qu'un juste qui possède Jésus en soi devient esclave du péché, Jésus est encore livré entre les mains des pécheurs. Et notre Seigneur Jésus-Christ souffre certainement beaucoup plus de l'abandon d'un de ses amis, catholique par exemple d'aujourd'hui, que des abominations qu'il a reçues de la part de ses ennemis. Je dirais que les ennemis injurés notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un petit peu normal. Ce sont les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ, mais que nous, qui sommes ses amis, qui prétendons être ses amis, nous injurions notre Seigneur Jésus-Christ par le péché, c'est quelque chose de bien plus grave. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ va souffrir beaucoup plus du péché d'un catholique, du péché d'un protestant, du péché d'un juif ou d'un païen. Et on peut même aller plus loin que ça. Je pense qu'on peut dire que notre Seigneur Jésus-Christ va souffrir beaucoup plus du péché de ceux qu'il a choisi d'une façon toute particulière, à savoir les prêtres, que du péché des laïcs. Et notre Seigneur Jésus-Christ va souffrir plus du péché d'un évêque que du péché d'un simple prêtre. Et notre Seigneur Jésus-Christ souffrira encore plus, évidemment, du péché d'un pape, le péché personnel d'un pape, puisque le pape peut pécher, malheureusement, puisqu'il n'est pas, il est infaillible, mais il n'est pas impeccable. Et donc, notre Seigneur Jésus-Christ va souffrir davantage du péché commis par un pape que du péché commis par un évêque ou un simple prêtre. Donc, voilà ce que disent les pères. La suprême bonté du Christ a résolu de se battre contre la malice consommée des Juifs, voulant détruire en attaquant la tête la malice même de tous les hommes pour en faire ses sujets et convertir cette malice en bonté. Il demandera à Pierre et aux apôtres de faire des Juifs des saints. Donc notre Seigneur Jésus-Christ nous demande d'utiliser les souffrances infinies de la Passion pour justement augmenter en nous l'amour du bon Dieu, nous préparer par une bonne confession pour que nous puissions justement après nous unir à lui complètement sur la croix. Alors trois points notent les pères concernant la passion du Christ. D'abord, il remarque son innocence qui se porte sans crainte pour rencontrer ses ennemis. Notre Seigneur aurait pu s'enfuir. Il le dira plus tard, il aurait pu demander à son père de lui envoyer quelques légions d'anges qui auraient écrabouillé littéralement tous ses ennemis. Non, notre Seigneur Jésus-Christ se tait, notre Seigneur Jésus-Christ est livré comme un agneau à la boucherie. Deuxième chose à remarquer, la majesté. Par sa majesté, son pouvoir divin, il ordonne et prédit l'approche de ses ennemis. Il modère leur fureur pour qu'ils ne puissent faire plus que ce qu'il a permis et prédit. Il veut être sûr aussi que les méchants qui vont le faire crucifier, donc n'attaquent pas les apôtres. Il veut lui-même prendre tout le poids de nos péchés. Il aurait pu partager avec les apôtres, mais il ne l'a pas permis. Il a voulu tout prendre. Enfin, il rencontre Judas avec empressement et volontairement pour bien montrer que ce n'est pas par faiblesse ni réticence, mais avec la plus haute dignité, condescendance et amour généreux qu'il souffre et meurt pour nous. Levez-vous, allons, dit-il, pour rencontrer Judas, allant volontairement à la mort. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas traîné, si vous voulez, comme un agneau à la boucherie. Il va lui-même à la boucherie, il va lui-même au devant de ceux qui vont l'assassiner. Moralement parlant, nous disent les Pères, le Christ nous enseigne de nous stimuler, d'avancer pour rencontrer nos souffrances. C'est l'acte d'une héroïque volonté que d'affaiblir par sa propre résolution la force d'un mal imminent et de l'embrasser volontairement pour le dominer et le soumettre. Encore une fois, rappelez-vous la formule qu'il nous faut répéter plusieurs fois par jour, « Mon Dieu, que votre volonté soit faite ». On a une grosse épreuve qui nous tombe dessus, « Mon Dieu, que votre volonté soit faite ». Les grands mots sont plus aisément vaincus par un grand esprit que de moindres mots par un petit esprit. La croix poursuit donc ceux qui la fuient, mais évite ceux qui la recherchent. C'est typique des pères, phrase magnifique. La croix poursuit donc ceux qui la fuient, mais évite ceux qui la recherchent. Quand nous acceptons, nous nous présentons comme volontaires pour souffrir avec notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ nous donne les grâces. Si au contraire, on cherche à éviter la croix, alors la croix va nous poursuivre. Les pères font remarquer que, plus j'ai lu ça, que la croix est en bois, le bois ça flotte. Pour que justement nous puissions, le bateau est en train de couler, donc on s'est précipité à la mer pour pas être entraîné par le bateau qui descend vers le fond de l'abîme. Et il faut s'accrocher à la croix nous porte. On a l'impression qu'elle est terriblement lourde, mais c'est quand on tombe à la mer avec la croix, c'est-à-dire qu'on tombe dans les difficultés du monde avec la croix, qu'on se rend compte que la croix nous porte parce que la croix flotte. Alors au début, on porte la croix, on a l'impression que c'est épouvantable, c'est beaucoup trop difficile parce que le poids de la croix est très lourd. Mais c'est au moment où justement nous tombons contre toutes les vicissitudes du monde que nous rendons compte que la croix flotte, une croix qui flotte, elle nous porte. Elle nous porte. Et les pères aussi disent que, par exemple, que la croix, il faut toujours la porter. Soit elle nous porte, soit on la porte volontairement, et à ce moment-là, elle nous soutient, soit on la porte. Contraint et forcé par les providences, en se plaignant constamment d'avoir porté cette croix, et à ce moment-là, elle nous écrase. Donc, si nous voulons que la croix puisse nous porter, il faut la porter avec générosité. Rappelez-vous cette phrase, la croix poursuit ceux qui la fuient, mais évite ceux qui la recherchent. Nous arrivons à la page 12 du Polycopier, versets 47 à 50 du chapitre 26. De Saint Matthieu. Comme il parlait encore, voici que Judas, l'un des douze, arriva et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les princes, des prêtres et par les anciens du peuple. Or celui qui le trahissait, leur avait donné un signe en disant : Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Et aussitôt s'approchant de Jésus, il dit : Je vous salue, maître, et il le baisa. Jésus lui dit, mon ami, pourquoi êtes-vous venu? Ils s'avancèrent, mirent les mains sur Jésus et le saisirent. Donc, méditons un petit peu sur ces passages extraordinaires de la Passion. Donc, je pense que le mot le plus important qui, moi, personnellement, me frappe le plus, c'est le mot mon ami. Jésus parle à Judas qui est venu le trahir, qui est venu le faire crucifier. Et il lui parle en lui disant « Mon ami, nous restons nous restons des créatures de Dieu, même dans le péché. Même dans le péché, nous avons encore en nous, heureusement, la foi informe, mais encore, la foi est informe, mais c'est mieux d'avoir une foi informe que pas de foi du tout. Notre Seigneur Jésus-Christ nous aime, continue de nous aimer, continue d'offrir pour nous son sang, même si nous le trahissons. Alors, voyons un petit peu ce que disent les pères, si j'ai retrouvé certains passages que j'ai placés sur le polycopier pour vous aider. D'après une tradition qui est parvenue jusqu'à nous, Jésus s'est manifesté sous deux formes extérieures, l'une sous laquelle tout le monde le voyait, et l'autre sous laquelle il apparut lors de sa transfiguration sur la montagne. Lors de la transfiguration sur la montagne, on voit surtout la divinité. L'humanité se cache et la divinité apparaît. Au contraire, lors de l'agonie au jardin des Oliviers, c'est la divinité qui se cache et l'humanité qui apparaît. De plus, il se manifestait à chacun selon qu'il en était digne. Et de même qu'il a écrit, qu'il est écrit de la manne qu'elle avait chacun, pour chacun le goût qu'il vous souhaitait, ainsi le Verbe de Dieu ne se manifeste pas à tous de la même manière. Certains ne se manifestent pas à d'autres. On le voit très bien dans le choix que notre Seigneur Jésus-Christ a fait des apôtres pour la transfiguration. Il ne monte pas au sommet du Tabor avec tout le monde. Il prend avec lui que Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean. De la même façon, on le voit encore à l'agonie au Jardin des Oliviers, où notre Seigneur Jésus-Christ ne prend pas avec lui tous ses apôtres, il les laisse à la porte du jardin, il prend avec lui dans le jardin que Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean, encore une fois, vient nous montrer que l'égalité n'existe pas dans notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont ces diverses transfigurations qui rendent nécessaire un signe pour le faire reconnaître. Et je pense, disent les pères, que tous ceux qui trahissent la vérité le trahissent par un baiser et en affectant un amour hypocrite pour elle. Donc pensons que ce baiser donné par Judas, donc Judas va trahir son maître par un baiser, c'est le verset 49. S'approchant de Jésus, Judas dit « Je vous salue maître », il le baisa. Pensons à nos propres péchés, combien de fois est-ce que j'ai offensé notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai trahi mon maître par un baiser que je n'avais pas le droit de donner ou que je n'avais pas le droit de recevoir. Vous voyez, encore une fois, il faut personnaliser la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les hérétiques, disent les pères, disent aussi à Jésus comme Judas, « Je vous salue, maître. Tressaillez de joie aux chrétiens. Vous avez gagné au trafic de vos ennemis et vous avez acquis ce que Judas a vendu, ce que le juif a acheté. » Chaque fois que nous commettons une faute grave, eh bien, chers frères, nous faisons exactement la même action que Judas. Hein. Ce n'est pas simplement la sienne, c'est aussi la nôtre. Chaque fois que je commets un péché grave, j'embrasse notre Seigneur, je baisse notre Seigneur Jésus-Christ pour indiquer aux ennemis notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui, arrêtez-le. Et alors ils s'avancèrent, mirent les mains sur Jésus et le saisirent. C'est pas simplement Judas, c'est nous aussi. Chacun d'entre nous, nous sommes responsables de ces péchés, de ces péchés des Juifs. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, il faut pas simplement se contenter de mettre sur le dos des Juifs la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ, nous en sommes responsables encore plus que les Juifs, parce que nous sommes des amis de notre Seigneur Jésus-Christ. Un beau texte des Pères ici. Voulez-vous, ô Judas, lier Dieu, saisir le Tout-Puissant, vous battre, ô homme mesquin, contre votre Créateur et l'obliger à se livrer entre vos mains? Ce fut l'avarice, dit Saint Jean Chrysostome, qui lui aspira à cette folie. L'avarice qui fait de nous ses esclaves cruels, car si celui qui convoite néglige son propre salut, il est certain qu'il négligera tout le reste. Judas craignit de voir le Christ s'enfuir en changeant sa forme extérieure et qu'ainsi il perde les 30 pièces d'argent qui ne lui avaient pas encore été données mais seulement promises. Parce que disent les pères, que le péché particulier de Judas, c'était justement l'avarice. N'oubliez pas que l'avarice n'est pas toujours un péché grave, mais l'avarice est un péché capital. Péché capital, c'est-à-dire un péché qui est à la tête d'autres péchés. Caput, ça veut dire la tête en latin. Le péché capital, c'est le péché de la tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le péché qui entraîne beaucoup d'autres péchés. Là, on le voit très bien, c'est Judas. Il livre son maître pour de l'argent, et à cause de ce péché d'avarice qu'il a commis, Eh bien, cela va l'entraîner à beaucoup plus loin et ça va finir par le suicide pour Judas. Ici un texte de Saint Victor d'Antioche, le malheureux homme, avec une faute d'orthographe qu'il faut que je corrige. Le malheureux homme donne un baiser de paix à celui contre qui il prépare des pièges mortels. Il donne le signe du baiser comme le poison trompeur. Donc cette trahison de Judas, encore une fois, représente notre propre trahison. Le Christ ressentit profondément, fut très peiné par la trahison de Judas, mais il ne refusa pas son baiser, lui rendait même un baiser d'amour. Pourquoi est-ce que notre Seigneur a plus souffert la trahison de Judas que la trahison des autres Juifs? Parce que Judas était un de ses amis, c'est lui qui l'avait choisi. Alors attention, faire attention. Souvent on a des gens qui disent, mais monsieur l'abbé, il fallait qu'il y ait un Judas, parce que sans Judas il n'y aurait pas eu la passion. C'est grâce à Judas que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est par Judas que notre Seigneur Jésus-Christ est livré aux Juifs, donc il n'est pas responsable. Notre Seigneur Jésus-Christ a utilisé la passion de Judas, mais Judas est responsable, il était libre de ne pas vendre son maître pour 30 pièces d'argent, et notre Seigneur Jésus-Christ lui a donné les grâces pour qu'il ne le fasse pas. Mais Judas a trop compté sur lui-même, pas assez sur notre Seigneur Jésus-Christ, je vous l'ai déjà dit souvent, a limité la miséricorde du bon Dieu, et donc a trahi son maître. Et même encore après avoir trahi son maître, Judas aurait pu encore se convertir. Nous verrons plus tard que notre Seigneur Jésus-Christ va faire plusieurs miracles pour essayer de convertir Judas. Toute la troupe de près de 1000 personnes qui étaient là va tomber à la renverse, ils vont tous tomber paralysés, et puis ensuite il va y avoir la guérison miraculeuse de l'oreille de Malchus, le serviteur du grand prêtre, tout ça sous le nez de Judas, pour aider Judas à se convertir. Et malheureusement Judas librement refuse ce travail de conversion. Il refuse, la main qui lui est tendue par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ, sachant que Judas librement le refuserait, au lieu de lui donner une grâce efficace, va lui donner une grâce suffisante. C'est comme ça que ça se passe. Donc, le malheureux homme donne un baiser de paix à celui contre qui il prépare des pièges mortels. Il donne le signe du baiser comme le poison trompeur. Il y a deux sortes de baisers. Il y a des baisers qui sont des baisers d'amour, et il y a des baisers qui sont des poisons. Quand je donne un baiser, que je reçois un baiser que je n'ai pas le droit de donner ou recevoir, c'est un poison. Si au contraire, j'embrasse avec tendresse mes enfants, mon épouse légitime, mon époux légitime, à ce moment-là, le baiser devient un signe d'amour. Là, on voit vraiment le degré d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour ses créatures. C'est un mot qui a complètement été galvaudé aujourd'hui, c'est bien le mot d'amour. Plusieurs mots ont été galvaudés. L'un d'entre eux, c'est le mot de liberté, l'autre, c'est le mot d'amour. Et là, on voit l'amour infini de notre Seigneur Jésus-Christ pour ses fidèles, pour ses apôtres, pour tous ceux qui le suivent. Et comment il va accompagner Judas jusqu'au bout pour essayer de sauver Judas. Donc notre Seigneur ne voulut pas donner l'impression d'être anéanti par la trahison, mais il l'embrassa délibérément, prêt à accepter des plus grandes indignités pour nous sauver. Donc il cherchait à amollir et à percer le cœur de Judas. Il nous enseigne l'amour de nos ennemis et ceux qui sont pleins de rage contre nous. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ nous apprend, on voit... Il nous montre, si vous voulez, par sa miséricorde à l'égard de Judas, que nous devons, nous aussi, tendre la main à nos ennemis, afin d'essayer de les convertir, pour les ramener vers le bon Dieu. Bien sûr, ça ne demande pas, le bon Dieu ne demande pas de faire n'importe quoi et d'accepter le pyromane dans la maison pour qu'il brûle la maison, bien sûr que non. Mais le bon Dieu nous demande de tendre la main pour aider notre prochain à monter vers Dieu. Car le Christ, disent les pères, n'avait pas de haine contre le traître Judas, mais souffrit profondément pour son péché et s'efforça de le conduire à la repentance. De même que l'étincelle de feu est produite par la scie, ainsi l'amour caché du Christ fut produit par les coups et les souffrances. Et on peut voir cet éminent amour du Christ pour les pécheurs pendant toute sa passion. Notre Seigneur Jésus-Christ aime d'une façon extraordinaire surtout les gros pécheurs. C'est pour ça que celui qui est dans le péché, même le péché jusqu'au cou, ne doit jamais se décourager, parce que notre Seigneur Jésus-Christ va offrir sa passion d'abord pour ses gros pécheurs. Notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas d'abord offrir la passion pour les saints, il va donner et offrir sa passion d'abord pour les gros pécheurs. Si je suis un gros pécheur, eh bien, le bon Dieu est mort davantage pour moi que pour les autres. Et donc, ça veut dire que les grâces que le bon Dieu a préparées pour moi sont plus grandes si je suis un gros pécheur que si je ne suis qu'un tout petit pécheur. C'est pour ça qu'il ne faut jamais, jamais se décourager. Ça nous arrive en tant que prêtre de voir parfois des gens qui sont découragés par leurs péchés, découragés par leurs rechutes, découragés par leurs exactions. Et il faut justement être plein de miséricorde pour leur faire comprendre le bon Dieu est plein de miséricorde. Il pardonne aux pécheurs repentants. Mais monsieur l'abbé, je suis tombé tellement souvent, le bon Dieu ne va plus me pardonner. Mais le bon Dieu pardonne. Est-ce que vous regrettez? Oui, monsieur l'abbé. Est-ce que vous allez essayer de ne pas retomber? Oui, monsieur l'abbé. Mais je vais sans doute retomber. Est-ce que vous allez essayer de ne pas retomber? Oui, monsieur l'abbé. Alors, le bon Dieu vous aime. Et même si vous tombez, il vous aime encore. Évidemment, tant que vous vivez dans le péché, vous ne voulez pas vous en sortir, il ne peut pas faire grand-chose. Il peut nous donner quand même des grâces actuelles. Le bon Dieu donne des grâces actuelles. On le voit très bien ici dans le texte avec Judas. Il va donner des grâces actuelles à Judas jusqu'au dernier moment pour aider Judas à se convertir. En bas de la page 12, la chute de Judas, c'est le sens allégorique là. La chute de Judas et de ceux qui le suivent représente la chute des Juifs, qui garderont une obstination dans leur infidélité, se rendant incapables de salut. Je vous l'ai déjà expliqué, cette chute de Judas représente aussi la chute des prêtres, la chute des religieux, la chute de ceux qui ont été choisis d'une façon toute particulière par notre Seigneur Jésus-Christ, comme il avait choisi les apôtres qui sont tombés. Donc nous aussi, nous tombons malheureusement. Et il faut nous relever. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va chercher Judas pour dire, expliquer que n'importe qui est tombé, même un prêtre, même un évêque, même un pape, qui tombe dans le péché, il doit se relever. Alors au sens moral, au sens anthropologique, voilà ce que disent les pères. Cette chute de la troupe représente la chute des réprouvés qui tombent sur leur dos et ne peuvent plus se relever. Quand les élus fautent, ils tombent sur leur face parce qu'ils sont rapidement touchés par Dieu et se relèvent pour faire pénitence. On le voit dans certaines apparitions, par exemple, à la Transfiguration à Mont Tabor, les apôtres vont tomber la face contre terre. Alors là, au contraire, la chute de la troupe, cet impère parle d'un millier de personnes, hein, une foule nombreuse, dit notre Seigneur, dit le texte sacré. Cette chute de la troupe, donc, la troupe qui tombe sur le dos représente justement ceux qui ne veulent pas se convertir. Ceux qui tombent la face contre terre représentent ceux qui veulent se convertir. Tomber sur la face représente donc pour chacun d'entre nous de reconnaître nos propres fautes dans cette vie et de les regretter par la pénitence. Mais tomber sur le dos où nous ne pouvons voir représente le départ soudain de cette vie sans savoir vers quelle punition nous sommes entraînés. C'est pour cela que l'Église nous fait demander dans l'éternité des saints, de morte subitanea libera nos Deus, c'est-à-dire de la mort subite, délivrez-nous Seigneur. Les pires châtiments, peut-être, c'est de mourir sans avoir le temps de se voir mourir. Malheur d'une certaine façon à ceux qui meurent sans avoir le temps de se voir mourir, n'ont pas le temps de se préparer à la mort. Au contraire, les gens qui souffrent le martyr avant de mourir, qui vont passer une longue période de temps à souffrir sur un lit d'hôpital, vont pouvoir sauver leur âme beaucoup plus facilement. C'est pour ça que c'est un crime épouvantable que de vouloir à part tous les moyens abréger les souffrances des malades. En disant, on va leur donner un cocktail de fainéant ou de produits de ce genre pour qu'ils meurent et comme ça ils souffriront plus. Attention, d'abord, on n'est pas maître de la vie et de la mort, c'est Dieu et Dieu seul qui est maître de la vie et de la mort, mais deuxièmement, on ne se rend pas compte qu'en agissant ainsi, vous supprimez peut-être la possibilité pour cette âme de monter vers le bon Dieu. Bon, certes, attention, alors, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, on a le droit de diminuer nos souffrances d'une certaine façon. Il y a quelqu'un qui souffre le martyr, vous avez un mot de tête épouvantable qui vous empêche de faire votre devoir d'état, prenez l'aspirine, vous avez le droit. Mais attention, il faut bien comprendre en même temps que dans bien des cas, l'acceptation de nos souffrances peut aussi être pour nous un trésor de grâce de la part du bon Dieu. Bon, si vous ne pouvez plus travailler à cause de vos souffrances, prenez un médicament. Mais si vous pouvez dire au bon Dieu, mon Dieu, écoutez, je vous offre de tout mon cœur cette souffrance que j'ai actuellement, je vous l'offre en réparation de mes péchés, je vous l'offre pour mes enfants, je vous l'offre pour les gens autour de moi, eh bien, c'est mieux de le faire ainsi. Les bons, disent les pères, tombent sur leur face car ils regardent les choses qui sont devant, alors que le pécheur tombe sur son dos car il regarde, recherche les choses qui sont derrière, qui passent et qui vont disparaître. Le catholique est quelqu'un qui va garder ses yeux fixés vers le ciel. On monte vers le ciel, c'est là où le bon Dieu nous attend. Donc on est en train de souffrir, porter notre croix ici-bas, mais on regarde vers le ciel pour voir le bon Dieu qui nous attend au paradis, qui nous indique la place, le chemin pour y aller. Au contraire, celui qui aime les choses du monde, il ne regarde pas vers le ciel, il regarde par derrière, il regarde le monde qui est en train de perdre par la mort. Alors il regrette de mourir, c'est la seule chose qu'il regrette, c'est mourir. C'est terrible, parfois, ça m'est arrivé en tant que prêtre quelquefois, malheureusement, c'est bien, bien pénible d'essayer d'aider certaines personnes qui sont en train de mourir et on n'arrive pas à monter leur regard vers le ciel. Il pleure, il nous dit, mon père, je vais mourir, c'est terrible, je vais mourir. On essaie de les calmer, leur dire, mais vous allez être jugé par le bon Dieu après votre mort. Préparez-vous, utilisez ces souffrances que vous avez maintenant pour justement vous préparer à passer devant le bon Dieu. Ah, mais je vais mourir, c'est terrible, je laisse tout derrière moi, qu'est-ce qui va se passer? Ne vous inquiétez pas de toutes les choses matérielles que vous laissez derrière vous inquiétez pas. Les gens vont s'en occuper très vite dès que votre corps sera encore chaud, qu'ils s'en occuperont déjà. Hein? Mais mettez tout ça entre les mains du bon Dieu, mais parfois on n'y arrive pas. Les gens ne veulent pas lever leur intelligence et leur volonté vers le ciel. Au contraire, ils regardent par derrière, ils recherchent les choses qui sont derrière, c'est-à-dire les choses du monde, les choses qui passent, les choses qui vont disparaître. Chapitre 26 de Saint Matthieu, versets 51 à 54, en bas de la page 12 du Polycopié. Voici qu'un de ceux qui étaient avec Jésus, étendant la main, tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille. Alors Jésus lui dit, remettez votre épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Pensez-vous que je ne puisse pas prier mon Père qui m'enverrait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliront les Écritures qui annoncent qu'il doit en être ainsi? Oui, on voit bien là que les évangiles se complètent les uns les autres. Et là, il n'y a pas tous les détails. Donc, Saint Matthieu n'explique pas que notre Seigneur Jésus-Christ va remettre en place l'oreille coupée de Malchus, le serviteur du grand prêtre. Alors, voyons un petit peu l'explication des pères. Donc, c'est la page 13 en haut de la page. Nous dirons en passant que ce Malchus est devenu esclave de l'impiété, de la cupidité des prêtres, et il a perdu l'oreille droite pour ne plus entendre que de l'oreille gauche la pauvreté du sens littéral de la loi. Bon, parce que la droite représente en principe l'évangile, la gauche représente le monde. Et donc celui qui n'a plus d'oreille droite pour entendre les murmures de notre Seigneur Jésus-Christ, il va entendre les vociférations du monde, les vociférations de ce monde d'ici-bas. Bien que les juifs paraissent encore entendre la loi aujourd'hui, ce n'est pas la vérité mais l'ombre de la tradition de la loi qu'ils entendent de l'oreille gauche, parce qu'ils ont perdu l'oreille droite. Donc ce Malchus, si vous voulez, qui a l'oreille droite coupée, est le symbole, si vous voulez, aussi du peuple juif qui n'écoute plus de l'oreille droite, parce qu'elle a perdu cette oreille droite, c'est-à-dire perdu l'amour du bon Dieu, perdu la connaissance de Dieu, refuse notre Seigneur Jésus-Christ qui vient à eux pour les sauver, et donc regarde en arrière, ils restent dans l'Ancien Testament, ne peuvent pas franchir le pas pour accepter le Nouveau Testament, et donc vont rester derrière et ne pourront pas sauver leurs âmes, parce que justement, au lieu d'accepter notre Seigneur Jésus-Christ, ils l'ont crucifié. Et n'oubliez pas aussi, je vous l'ai déjà dit souvent, que ce peuple juif aussi est le symbole d'un autre peuple, la nuque raide, c'est le peuple des pécheurs. Pas que les juifs qui offensent le bon Dieu, nous aussi, on offense le bon Dieu encore plus gravement parce que nous sommes des enfants de Dieu par le baptême, ce qui n'est pas le cas des juifs. Donc le peuple qui a embrassé la foi parmi les gentils est ici représenté par saint Pierre, et par le fait même qu'ils ont cru en Jésus-Christ, ils ont été cause que les juifs ont cessé d'entendre de l'oreille droite. Donc une partie du peuple juif va être guérie, va retrouver l'ouïe, va retrouver l'usage de l'oreille droite, et donc va pouvoir monter vers notre Seigneur Jésus-Christ. Au contraire, le peuple juif qui refuse de se convertir, c'est malheureusement l'immense majorité d'entre eux, le peuple juif qui refuse de se convertir représente le peuple qui est incapable d'écouter notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils n'ont plus l'oreille droite pour l'entendre. Alors ils vont utiliser l'oreille gauche n'est dirigée que vers le sol, c'est-à-dire vers la boue du monde, c'est le bruit du monde. Donc par l'oreille droite, on entend les conseils évangéliques de notre Seigneur Jésus-Christ, on entend les béatitudes, on entend les commandements de Dieu. Venez les bénis de mon Père. On entend notre Seigneur Jésus-Christ qui nous parle de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Au contraire, si on n'a plus l'oreille droite et qu'on est obligé d'écouter les choses par l'oreille gauche, on entend la révolution qui nous murmure « Je ne servirai pas », qui nous dit « Voilà vos trois dieux, au lieu de la pauvreté, la chasteté, d'obéissance, laissez tomber tout ça, prenez liberté, égalité, fraternité, voilà les trois dieux que vous devez adorer. » D'autres textes des pères, on peut dire que Pierre n'enlève pas à ceux qui écoutent le sens de la perception de la vérité, mais qui ne fait que manifester le juste jugement de Dieu, qui ôte ce sens à ceux qui négligent de s'en servir, tandis que l'usage de cette même oreille droite est rendu par un effet de la miséricorde divine à tous ceux qui, parmi le peuple juif, ont embrassé la foi. Oui, c'est la même idée. Ceux qui ont perdu l'oreille droite, c'est le peuple juif qui refuse de se convertir. Ceux qui retrouvent l'oreille droite, comme Malchus, qui va être guéri par notre Seigneur Jésus-Christ, représentent les convertis. Ceux qui vont accepter de se tourner vers notre Seigneur Jésus-Christ. On voit très bien que malgré tous les miracles faits par notre Seigneur Jésus-Christ, malgré le fait qu'il avait rempli toutes les prophéties de l'Ancien Testament, un bon nombre de Juifs ont refusé de se convertir, mais heureusement, un nombre important va se convertir. Tous les premiers catholiques du temps de notre Seigneur Jésus-Christ, après sa mort et sa résurrection, ce sont pratiquement tous des convertis du judaïsme. Dans un autre sens, l'oreille coupée par saint Pierre au valet du grand prêtre Malchus figure le sens indocile de Louis, qui est retranché par le disciple de Jésus-Christ au peuple esclave du sacerdoce judaïque et qui devient incapable de recevoir la vérité qu'il a refusé d'entendre. Malheur à celui qui a perdu l'oreille droite. Malheur à celui qui est devenu sourd, qui est incapable d'écouter la parole du bon Dieu. Mais n'oublions pas en même temps, ça c'est très important pour utiliser la miséricorde du bon Dieu, n'oublions pas que notre Seigneur Jésus-Christ a le pouvoir de faire entendre les sourds et de faire parler les muets. Alors si je suis muet parce que je ne suis pas capable d'accuser mes péchés confessionnels, le bon Dieu peut délier les liens de ma langue et me faire dire du fond du cœur « Pardonnez-moi mon Père parce que j'ai péché ». Si je suis sourd parce que j'entends plus rien des avances de notre Seigneur Jésus-Christ pour conquérir mon âme, notre Seigneur Jésus-Christ a le pouvoir de remettre l'audition dans mes oreilles pour que je puisse entendre notre Seigneur Jésus-Christ qui m'appelle, venez les bénis de mon Père. Et on voit ici comment les pères de l'Église ont cet extraordinaire sens de l'interprétation de l'Écriture sainte. En quoi donc est-ce une indignité qu'après cette faute, Pierre soit devenu le chef de l'Église, de même que Moïse devint le chef et le prince de la synagogue après avoir tué l'Égyptien? L'un et l'autre outrepassèrent la règle, non par une cruauté détestable, mais par un sentiment de colère bien digne de pardon. L'un et l'autre agirent sous l'impression de la haine contre l'injustice commise sous leurs yeux. Bien que l'un ait péché par un excès d'amour fraternel, le second par une affection vive, quoique charnelle encore pour son maître. Dans un autre sens, celui qui se sert du glaive pour tuer son semblable périt tout le premier, victime du glaive de sa malice. Et que, mais il est beau de voir un peu la, encore une fois, cette interprétation extraordinaire des pères de l'Église qui voient toutes les choses avec un regard tout à fait surnaturel, un regard que nous avons un mal fou, nous d'avoir. Voilà, donc je vais arrêter là, ça fait déjà une heure que je parle. Et donc, si Dieu veut, donc prochain cours dans une semaine. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.